Onde Noire, la nouvelle émission, épisode 9. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques, un peu étonnée par cette intro. Donc je vais me remettre vite pour parler du sommaire de l'émission. En première partie, nos coups de cœur, 3 livres. Et puis en deuxième partie, ben, on peut dire qu'on va tirer le portrait. Hein, on va tirer le portrait de 2 personnages de romans qui reviennent souvent. Et c'est des livres dont on parle à chaque fois. On a donc décidé, plutôt que de parler du livre qui vient de sortir, de parler des personnages.
Donc, les caractères, comme on dit en anglais.
Caractères. Polyglotte.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Une brève histoire du roman noir. C'est de Jean-Bernard Puy. Et c'est paru...
Qui est aussi un habitué de l'émission.
Oui. C'est paru à l'œil neuf pour la modique somme de 14,90 €. Alors attention, c'est pas un roman. C'est, comme le titre l'indique, une brève, c'est un petit bouquin, très brève histoire du roman noir. On va dire que c'est un livre d'érudits, pour les érudits. Mais ce qui est assez génial dans ce livre, c'est que c'est surtout pour les autres. Ceux qui s'y intéressent moins, ceux qui connaissent peu ou pas, et qui voudraient apprendre des choses. Jean-Bernard Puy, comme tu viens de le dire, il écrit du roman noir. On sait que c'est un bon écrivain qu'on aime beaucoup. Et il adore le roman noir. Il le dit, il l'écrit. On va donc parcourir 8 chapitres qui permettent de faire un rapide tour d'horizon du roman noir. J'arrête pas de dire vite, bref et tout, mais c'est plutôt complet. Il part des origines. Donc dans le premier chapitre, on retrouve l'histoire et les thématiques du roman noir. Alors, un des dadas de Jean-Bernard Puy et de quelques autres des romanciers, c'est de faire remonter le roman noir à Œdipe Roy. Mais on va jusqu'à 2008-2009 avec le magnifique Zoulou de Caryl Ferré, dont on vous a souvent parlé. On parle aussi bien de Chandler ou du très légendé Christopher Moore, dont on vous a aussi parlé ici.
C'était bientôt d'ailleurs la Chandler, non?
C'est cela, oui. Oui. Bon. Puy nous parle donc de... C'est facile d'enchaîner là-dessus. Puy nous parle des grands auteurs qui ont marqué ce genre littéraire. Les œuvres incontournables pour tout amateur du genre, mais aussi pour tout amateur de la littérature en général. On passe donc en revue les précurseurs, comme je viens de le dire, mais aussi les déjantés, les forcenés, les pessimistes. Ce qui est très agréable dans ce petit opuscule, on va dire, c'est que ce n'est pas un travail d'encyclopédiste. Il cite d'ailleurs plusieurs fois, en hommage d'ailleurs, Claude Mesplède et son célèbre Dilippo, qui veut dire dictionnaire des littératures policières. Mais c'est plutôt une balade subjective et attractive dans le roman noir. Très subjective, Jean-Bernard Puy parle des romans qu'il aime. Ça se lit en fait comme un roman, ou cela se picore effectivement comme une sorte de petit dictionnaire. En tout cas, c'est un petit livre indispensable pour au moins 3 raisons. D'abord, et pour moi, c'est vraiment fondamental, il donne envie de lire, ou tout de moins de relire certains livres. Deuxième raison, il mêle astucieusement roman noir, roman policier et littérature générale. Histoire de rappeler, et ça fait du bien, que le roman noir n'est pas un genre mineur et qu'on ne peut pas considérer toujours la littérature noire comme un sous-genre. Enfin, en dernier chapitre, vous vous délecterez d'une petite nouvelle de Jean-Bernard Puy. Un petit bijou d'humour noir. Ça s'appelle « Sauvons un arbre, tuons un romancier ». Et c'est en fait une métaphore de ce roman, de ce métier des affres des romanciers de tout poil. C'est en fait une autre façon de nous parler de cette littérature de gare et de gratigner un petit peu les écrivains. Pour conclure, je le cite, il dit « Marlowe était un causeur ». C'est Philippe Marlowe, c'est le héros de Chandler, hein. Marlowe était un causeur impénitent, lui aussi, et on aime ça. Voilà, donc vraiment, à l'œil noir, une brève histoire du roman noir, Jean-Bernard Puy. Alors, dans quelle catégorie classerait-il le livre dont tu vas nous parler? Les déjantés, les pessimistes, les forcenés?
Non, c'est plutôt dans les déjantés. Le roman s'appelle Le Vampire de New York. L'auteur est Charlie Houston. Et le traducteur, Étienne Menanto.
Et l'éditeur?
L'éditeur, c'est Seuil Policier, en fait plutôt Seuil Thriller, et cela vaut 21 €, c'est dans la grande collection. Le roman se passe de nos jours, la version originale date de 2005, à New York, comme évidemment, comme son titre le laisse présumer. Les vampires, d'ailleurs assez bizarrement écrit tout au long du roman avec un Y à la place du I,
Parce qu'ils habitent New York.
Peut-être. J'ai pas vraiment compris. Il y a un jeu vidéo avec qui s'appelle Vampire aussi, comme ça. Donc, mais comme les jeux vidéo, c'est pas ma tasse de thé, ça m'a pas donné.
C'est pas de ta génération.
Donc, je reviens à l'histoire. Les vampires qui sont dans New York, ils ont fait leur coming out. En fait, ils sont reconnus maintenant. Il y a des vampires, on sait qu'il y en a. Ils sont reconnus, mais ils sont pas vraiment acceptés par tout le monde. La ville de New York, elle, est divisée en grands quartiers où chaque groupe de vampires a son influence. Des grandes familles qui se partagent un territoire. Ça doit vaguement vous rappeler quelque chose si vous aimez les films noirs. Pour compléter le tableau, il y a aussi des zombies et des ectoplasmes. Mais alors, on n'est pas du tout dans un roman gore, l'équivalent des films de Dario Argento, si vous voyez ce que je veux dire. Car en fait, les différents groupes ici se livrent à une guerre des gangs. On serait plutôt donc plus proche d'un Scorsese, d'un Coppola. Il n'y a pas vraiment d'horreur non plus. Ou presque pas, parce que les vampires, quand ils pompent le sang de quelqu'un, eh ben, ils ont leur petit matos pour ne pas gaspiller. Un peu comme quand on va dans le camion de prélèvement de sang.
Bientôt, tu vas dire que l'Institut Arnaud Stanks pourrait être vampire. Oui, bien
voilà,
sûr.
Ils ont comme Arnaud Stanks, ils ont le petit truc comme ça, puis ils ne gaspillent pas, parce que ben, le sang, c'est bon, ça ne se jette pas. Dans ce roman, donc, on a affaire, entre autres, mais plus particulièrement, à un certain Joe Pitt. C'est son nom de vampire, avant il s'appelait Simon, qui est une espèce de détective privé à la ramasse, un Marlowe new-yorkais et raté. Détective, d'ailleurs, c'est pas vraiment son job. Mais là, il doit retrouver une fille, la fille d'une sommité de la ville. Vous savez, le genre sommité habitant super appart Park Avenue et tout ça. C'est une adolescente en rébellion qui vit dans un squat et fréquente des tas de gens qui ne conviennent guère à ses parents. Et donc, il va la rechercher, éventuellement la retrouver.
Éventuellement lui pomper son sang, non ?
Et éventuellement lui pomper son sang. D'une certaine façon, en fait, c'est un polar quasiment classique, sauf que le héros, comme pas mal d'autres personnages, c'est un vampire. C'est très drôle, les dialogues sont très bien faits, il y a une discussion dans un bar entre le vampire détective et la mère nympho et alcoolique de la petite fille qu'il doit rechercher, qui est un véritable bijou.
Vous prendrez bien une pinte de 100B ?
Non, pas du tout, c'est plutôt la nympho qui essaye de draguer le détective pour qu'il retrouve sa fille, pour faire plaisir au mari, c'est vraiment excellent. Et alors, ce que j'aime surtout, c'est qu'en fait, il y a du fantastique, évidemment, parce qu'il y a des vampires, tout ça, a priori, ça n'existe pas.
Ah bon ?
Mais le fantastique reste complètement au second plan, parce qu'on n'a quand même pas viré notre cutie à la Nora Aude, on aime le roman noir, pas le fantastique, pas pour nous. Un autre intérêt de ce livre, c'est la balade dans New York la nuit. Évidemment, parce que c'est la nuit, vu que les vampires ne supportent pas le jour. Vous savez ça peut-être, le soleil, quoi, en fait.
Ouais.
Mais ils ont quand même une chance, c'est que le virus qui les a fait devenir vampires les empêche de voir le jour, mais par contre, ne les empêche pas de boire du whisky. Et pour un détective, ça serait quand même, c'est quand même pas mal. Il devrait se contenter seulement de pintes de O négatif, ça serait un peu gênant. Voilà, tous les cas, moi, je me suis vraiment régalé à lire ce livre. Il y en a 4 autres aventures de Joe Pitt qui sont déjà parues aux États-Unis. Du moins, c'est ce que j'ai vu sur le site de Charlie Houston. En VO, ça s'appelle Already Dead. Il y en a 4 autres. Et Already Dead est déjà acheté pour le cinéma depuis quelques années. Donc, ils doivent se casser pour faire un scénario qui tient le coup.
Alors, une petite précision, parce que je trouve que tu as été un petit peu dédaigneux. Le fantastique est un genre totalement honorable.
C'est vrai.
Et bon, c'est vrai qu'ici, on défend le roman noir. Alors, tu disais Already Dead.
Voilà.
Peut-être est-ce une bonne... accroche pour le morceau de musique.
Pour faire le morceau de musique qui va nous permettre de passer au coup de cœur suivant. Et ce morceau de musique, c'est les Grateful Dead.
Quel enchaînement.
Voilà, et le morceau s'appelle aussi Dark Hollow, donc allons-y.
Known in common circles as a cheater. A cheater, I always like that name.
That's the Vulgate.
I'd rather be in some dark harbor where the sun don't ever shine than to be home alone knowing that you're gone would cause me to lose my mind. So blow your whistle, freight train. Take me far on down the track. I'm going away. I'm leaving today. I'm going, but I ain't coming back. I'd rather be in some dark holler where the sun don't ever shine than to be in some big city in a small room with you on my mind. So blow your whistle, freight train. Take me far on down the track. I'm going away. I'm leaving today. I'm going, but I ain't coming back.
Sur ces applaudissements, merci beaucoup. Merci. Ah non, c'est pas pour moi.
Non, c'était pour Jerry Garcia.
Ah oui, c'est Jerry Garcia. Donc, Grateful Dead. Et maintenant, nous partons en Islande avec un titre qui sent le froid, puisque ce livre s'appelle Hiver Arctique. C'est paru, ça vient de paraître chez Métayer. C'est de Arnaldur Indridason, un livre traduit de l'islandais par Eric Bourri, et c'est un livre qui vaut 19 euros. Alors, Indridason, ben, je crois qu'on vous a parlé de tous les livres qui ont été traduits en France, tous chez Métayer. Et dans celui-là, il me semble qu'il y a une thématique qui est très intéressante, parce qu'on la retrouve assez régulièrement dans le polar. C'est en gros, les lieux influencent-ils les crimes qui s'y commettent ? On trouve ça déjà chez Chandler, Elroy l'a repris avec son Los Angeles, on le retrouve plein de fois. Et il semblerait donc que ce soit le leitmotiv de l'écrivain islandais qui nous entraîne. Donc en fait, c'est le cinquième roman traduit dans l'île volcanique sur les pas de son commissaire. Alors son commissaire s'appelle Erlendur. Commissaire toujours dépressif, toujours prompt à s'émouvoir du malheur d'autrui. Comme le dit son adjointe, qui s'appelle Eva Lindt, elle dit lui, il est là pour vénérer le malheur. Alors, je cite Erlendur, sa théorie était que les Islandais ne s'inquiétaient que peu des disparitions, considérant la plupart du temps qu'elles s'expliquaient de façon normale dans un pays où le taux de suicide était plutôt élevé. Donc, Erlendur, donc le flic fétiche, oula, j'ai une extinction de voix, d'Indridason, explique ici donc que l'enfer météorologique semble être un facteur déterminant dans ce qu'il appelle les crimes typiquement islandais. Les lieux influencent les crimes. Mais est-ce que cet hiver arctique et l'environnement islandais peut expliquer le meurtre d'un petit gamin tout mignon de 12 ans d'origine thaïlandaise ? Ou est-ce qu'il va falloir aller carrément accuser le racisme et la xénophobie ? Erlendur et toute son équipe vont devoir batailler ferme pour pénétrer le milieu des émigrés de plus en plus nombreux en Islande. Serait-ce donc un crime raciste ? Et pourquoi a-t-on voulu éliminer du sol islandais ce doux gamin qui ne rêvait en fait que d'oiseaux et de forêts ? Le commissaire s'interroge, s'embrouille, emmêle les fils de deux histoires et pour tout dire, il s'enfonce encore un peu plus dans la dépression. Alors évidemment, dans ce bouquin, on retrouve la dénonciation de la xénophobie, un des thèmes du roman, mais Indridason s'occupe surtout de nous plonger dans l'esprit tourmenté d'Erlendur. Pas de scènes violentes, pas d'esbroufe. Jolie performance pour un roman policier. C'est pas l'intrigue et la résolution du meurtre qui nous font tourner les pages. L'enquête se passe ailleurs, et on va dire dans la tête d'Erlendur, dans le plus intime d'Erlendur, dans ses souvenirs, dans les drames passés qu'il ressasse inlassablement. C'est d'autant plus passionnant. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est si enfin Erlendur va trouver sa rédemption dans son travail, dans ses proches, dans ses enfants, qu'il voit beaucoup dans ce roman-là. Dans les autres, ils étaient un petit peu plus évanescents. Là, il va beaucoup plus voir ses enfants. Voilà, c'est un roman magnifique, une écriture épurée, et parfois glacial, sans faire de mauvais jeu de mots. Ça s'appelle donc « Hiver arctique ». C'est de Arnaldur Indridason, traduit par Éric Bourri, 19 € chez Métayer. Ça vient de sortir. Et si j'en conseillerais d'autres, si vous voulez commencer par le début des aventures d'Erlendur, je vous conseille beaucoup les deux premiers. Le premier s'appelait « La cité des jarres » et le deuxième « La femme en verre ». Et c'est des romans qui ont eu de multiples prix et qui sont vraiment excellents.
Et dans toutes les interviews, Arnaldur Indridason remercie toujours son traducteur Éric Bourri parce qu'il dit que sans lui, il dit que même ce qu'il écrit lui, avec toute modestie, il dit que ce qu'il écrit lui, c'est mieux que traduit dans sa langue.
En tout cas, l'écriture est belle, donc la traduction est bonne.
Et on vous laisse avec les informations.
À tout à l'heure.
18h30 sur Agora FM, bon début de soirée.
On est soigné par le Conseil Général, alors que d'autres sont laissés à l'abandon. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ces inégalités sur le département des Alpes-Maritimes. Un habitant du département, qu'il soit à Saorge ou Moulinet, à Nice ou à Saint-Étienne-de-Tinée, doit être traité avec le même respect et avec le même souci du Conseil Général de répondre aux besoins de chacun des habitants. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
On passe à la culture. Ce soir à 20h30 au Café Théâtre de la Seine-sur-Mer, Gabriel fait son show. 30 ans de vie passés au crible en 1h10. Gabriel est drôle, cynique, acide mais attachant. Un moment de franche rigolade à revoir pourquoi pas les 19, 20 et 21 février. La médiathèque de Montsartou sera Roots ce soir dès 19h en showcase Clinton Firon, l'un des piliers les plus solides du reggae. Auteur, compositeur, interprète, il est aussi aujourd'hui le chef d'orchestre du groupe Boogie Brown Band, une référence dans le monde du backing band américain.
Ce soir à 19h, rendez-vous à l'espace TAC Motif de Grasse.